chercher dans le livre de la Genèse, le chapitre 22. Genèse 22. Genèse 22, nous allons lire l'histoire d'Abraham qui est mis à l'épreuve par Dieu. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. L'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. On va lire un autre texte dans le Nouveau Testament qui commente ce passage. C'est juste trois versets. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19. Hébreux 11, 17 à 19, on va voir que ce texte apporte peut-être une réponse aux questions qu'on se pose hein, par rapport à ce récit. Comment Abraham a-t-il traversé tout cela? Comme on dit souvent, qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là, n'est-ce pas? Et il a dû ressentir quelque chose de terrible, des émotions très fortes. Hébreux 11, verset 17. On va le lire dans la version second 21, s'il te plaît. Qui nous dit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice. Bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Dans le grec, c'est une parabole, voilà, c'est une parabole d'image de la résurrection. Donc là, il y a plusieurs points importants. Voilà. Il avait les promesses de Dieu, Dieu lui avait dit « ça sera ta descendance ». Voilà, et donc tout cela a amené à croire que même si Dieu lui demandait quelque chose de difficile, Abraham avait la foi que Dieu il pouvait même ressusciter des morts, son fils. Isaac, préfiguration de Jésus. Alors, si on revient sur le texte, c'est une demande terrible, mes amis, incompréhensible. Même aujourd'hui, quand on lit ce texte, on dit « mais comment Dieu a pu demander une chose pareille ?» On sait que Dieu, il est contre les sacrifices humains. Il n'a jamais voulu cela. Et là, il lui dit, voilà ce fils que tu as tellement désiré, que tu as eu tellement de difficultés à avoir, que tu as attendu si longtemps, jusqu'à l'âge de 100 ans, ton unique, ton fils unique, ça nous fait penser à Jésus, le fils unique de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ça nous parle de Jésus. Dieu qui a donné son Fils unique. Voilà, le terme unique était attribué à Jésus. Et ici, il est appliqué donc aussi à Isaac. Ton Fils, ton unique. Ce Fils né d'un miracle. Abraham et Sarah étaient très âgés quand ils ont eu Jésus. Ça relève du miracle. Jésus est aussi le Fils d'un miracle, né d'une vierge. Celui que tu aimes, il dit aussi, Isaac, comme Jésus, fils bien-aimé. Eh bien, ce fils-là, tu vas l'offrir en holocauste. Et l'holocauste était le sacrifice le plus terrible, parce que dans l'holocauste, non seulement la victime était égorgée, sacrifiée, mais elle était brûlée. C'est-à-dire, il ne restait rien. Sacrifice total. Maintenant, si nous réfléchissons, est-ce que nous comprenons davantage le sacrifice de Jésus-Christ ? Est-ce que quelqu'un ici peut dire, oui, c'était normal, c'était évident, c'était logique, que Dieu prenne son Fils, le fasse clouer sur la croix, l'abandonne, dans des souffrances terribles, n'est-ce pas ? Non, ça non plus, ça n'est pas explicable, c'est incompréhensible pour nous aujourd'hui. Dieu qui fait mourir son Fils. Vous savez, parfois Dieu fait des choses, ou nous demande de faire des choses que nous ne comprenons pas. Et il y a un texte, un autre texte dans le Nouveau Testament qui commente ce passage, on va le lire, c'est Jacques chapitre 2, versets 20 à 24. Jacques 2, versets 20 à 24, qui nous dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Alors, passage controversé, parfois, qui est utilisé pour... L'explication du salut, mais ce n'est pas l'idée ici n'est pas de dire qu'on doit accomplir des œuvres pour être sauvé, parce que Dieu, de toute façon, il connaît notre cœur. Dieu lit dans nos cœurs, il voit la foi qui est dans le cœur, il n'a pas besoin de preuves, mais il veut quand même qu'on exprime notre foi ici par une œuvre. Donc, pour Abraham, cette mise à l'épreuve était une façon de montrer sa foi, parce qu'il en fallait de la foi pour obéir sans discuter et offrir son fils. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, en particulier, Dieu demande de manifester sa foi par des paroles. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, si tu le déclares publiquement de ta bouche, tu seras sauvé. Dieu veut qu'on confesse le nom du Seigneur. Est-ce que vous l'avez fait ? Ou est-ce que votre foi, elle est uniquement là dans votre cœur, incognito, cachée ? Non. Comment puis-je savoir, moi, que quelqu'un a la foi s'il la garde secrète dans son cœur? J'ai besoin de l'entendre exprimer par des paroles, par une prière, par un témoignage, par une confession de foi, par le baptême, signe visible d'une vie transformée. En fait, ce que Dieu demande ici, c'est surtout un témoignage pour les hommes, pas pour lui. Dieu connaît la foi d'Abraham. Dieu connaît la foi qui est dans notre cœur. Mais il y a des moments, voilà, pour nous, nous avons besoin de voir la foi vécue, mise en pratique, la foi exprimée. Alors j'imagine que ce fut un choc pour Abraham, une douleur. Et quand Dieu lui a dit, prends ton fils et offre-le en holocauste. J'imagine que les pensées devaient s'agiter en foule dans la tête d'Abraham. Mais c'est ainsi que Dieu fonctionne. C'est ainsi que Dieu travaille dans nos vies. Dieu place parfois des épreuves, des fardeaux dans nos vies, comme l'horloger met des poids dans une pendule, dans une horloge comptoir. Vous savez, ces fameuses grandes horloges, là, elles fonctionnent avec des poids, hein, n'est-ce pas ? Et un jour, quelqu'un a jugé que voilà, c'était inutile, pourquoi mettre des poids ? Ça risquait d'abîmer l'horloge, donc il a enlevé les poids. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça ne fonctionnait plus. Il fallait ces poids, il fallait ces fardeaux pour que l'horloge fonctionne. Parfois, et souvent, il nous faut des fardeaux, il nous faut des épreuves pour que notre foi fonctionne, soit mise en œuvre, mise à l'épreuve. Donc, l'épreuve est terrible, mais l'obéissance est remarquable. Parce que quand vous lisez le texte, hein, après ce que Dieu lui a dit, il y a beaucoup de personnages dans la Bible qui ont discuté avec Dieu. Hein. Moïse, Jonas, et plein d'autres, même Jérémie. Il dit, mais Seigneur, mais écoute, tu es sûr de... Tu ne penses pas que Abraham, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est levé de bon matin. Et il a fait ce que Dieu a dit. Sans discuter. Me voici. Quand Dieu l'a appelé, il a dit, me voici. Vous savez, ça revient plusieurs fois au verset 1, au verset 11 aussi, hein, quand l'ange l'a appelé, me voici. Quand Dieu vous appelle, quand Dieu appelle quelqu'un, quelle est la bonne réponse ? Est-ce que c'est, Seigneur, je vais réfléchir, hein ? Ou alors, Seigneur, pas maintenant. Ou alors, est-ce que c'est, Seigneur, me voici. Ton serviteur écoute. Mon Seigneur, Seigneur, me voici. Envoie-moi, comme Ésaïe l'a dit, comme Jésus lui-même l'a dit. Hein, Jésus, à un moment donné, hein, il dira, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Qu'est-ce que vous répondez quand Dieu vous appelle ? Quand Dieu vous parle ? Il y a ici, dans cette salle, des personnes que Dieu appelle à le servir. Que ce soit dans l'église locale, il y a plein de besoins pour servir le Seigneur. Que ce soit dans le ministère, Dieu a besoin d'ouvriers et d'ouvrières à plein temps. Si Dieu vous appelle, qu'est-ce que vous lui répondez ? Lui dites, Seigneur, je suis trop jeune. Seigneur, j'ai des études à faire. Seigneur, je ne suis pas capable. Si Dieu vous appelle, c'est lui qui donnera la capacité et les dons. Abraham prépare tout, il prépare le bois, il prépare le couteau, il prépare le feu, et ils vont marcher pendant 3 jours. C'est long, 3 jours. 3 jours de marche. On a le temps de parler, hein. On a le temps de penser. Ça veut dire qu'il y a des nuits aussi. Des nuits où Abraham, à mon avis, devait quand même se réveiller. Vous savez ce que c'est, on se réveille. Qu'est-ce que Dieu me demande ? Mais bon, il y a aucun verset n'exprime ce qu'il ressent, hein. Mais on imagine, hein, des insomnies et des questions. Essayer de comprendre. Et on va relire Hébreu, qu'on a lu tout à l'heure, Hébreu 11, versets 17 et 19, parce qu'il y a quelques éléments de réponse dans ce verset, et je les ai un peu évoqués. Hein, quand on lit Hébreu 11, verset 17, quand il dit « c'est par la foi ». Alors déjà, la foi, Abraham était un homme de foi. Je veux dire, cette foi, c'est ce qui le portait, qui lui faisait croire que Dieu ne pouvait rien lui demander de mauvais. Quand on a confiance en Dieu, quand on a foi en Dieu, on sait que Dieu est bon. Et quoi qu'il nous demande, quoi qu'il fasse, nous pouvons avoir confiance en lui. Donc, mis à l'épreuve, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses. Mais on pourrait dire, parce qu'il a reçu les promesses aussi. Dieu a fait des promesses, et quand Dieu fait une promesse, il la tient. Dieu accomplit ses promesses, mes amis. C'est très important, cela, de croire que tout ce que Dieu a dit dans la Bible, Dieu va le faire. Tout ce qu'il avait promis jusqu'à aujourd'hui, il l'a fait. Tout ce qu'il a encore promis qui n'est pas accompli, il le fera, mes amis. Nous devons le croire. Et Abraham était comme ça. Il dit, Dieu m'a fait les promesses, aucun doute. Il m'a dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Isaac, bon, s'il faut qu'il meure, il mourra. Mais Dieu est capable de le ressusciter. Dieu est capable de le ressusciter. Dieu va le ressusciter. Alors là, c'était une chose, quand il était avec les serviteurs, là, il pouvait parler un peu de tout, hein. Je suppose qu'il parlait des troupeaux, il parlait d'Ismaël qui était parti à ce moment-là, il parlait des problèmes avec les Philistins, plein de choses à discuter. Hein. Mais maintenant, ils ne sont plus que tous les deux, le père et le fils. Et deux fois, dans Genèse 22, verset 6, et Genèse 22, verset 8, il est dit « Et ils marchèrent ». Tous deux ensemble. Quelle belle image du Père et du Fils qui marchent dans la communion. Hein. Le Père et le Fils toujours en communion, même dans ces dernières heures que Jésus a vécues, jusqu'à la croix. Et donc là, supposez qu'il y avait des moments de silence pesant, de silence assourdissant, comme on dit, hein, sans parler. Isaac n'a pas posé de questions, il n'a pas osé. Mais cette fois, il se risque et il pose une question très pertinente. Mais bon, hein, tu as le feu, tu as le bois, et l'agneau. Il est où l'agneau ? Il est où l'agneau ? Il est où l'agneau dans votre vie, mes amis ? Où est l'agneau ? Est-ce qu'il est toujours sur la croix ? Ou est-ce qu'il est ressuscité ? Est-ce qu'il est... sur des images pieuses, sur des peintures, où est-ce qu'il est dans votre cœur? Où est l'agneau, mes amis? Il est où l'agneau? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il est votre sauveur? Parce que, je l'ai lu tout à l'heure, hein, quand Jean-Baptiste il a vu venir Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est le jour où j'ai compris ce verset que j'ai été sauvé. C'est très important de savoir où est l'agneau dans votre vie, mes amis. Quelle place il occupe? L'agneau de Dieu, sacrifié pour vous. S'il n'y a pas d'agneau, il n'y a rien pour payer vos péchés. La réponse d'Abraham est très lapidaire. Hein, c'est, voilà. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. T'inquiète pas pour ça. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Pourvoir, c'est prévoir aussi, hein, c'est voir à l'avance. C'est la foi d'Abraham, hein, il est dit que Jésus dira dans l'évangile à un moment donné, il dit « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Jésus évoque un épisode dans la vie d'Abraham, on n'est pas sûr de quel moment il s'agit, mais ça pourrait être ce moment-là où... Il a vu la résurrection, il a vu la possibilité de la résurrection, il a vu ce jour où le Fils de Dieu, sacrifié, ressusciterait. La foi. La foi, dit quelqu'un, la foi voit ce qui est invisible. La foi voit ce qui est invisible. La foi croit ce qui est incroyable. Nous les chrétiens, on croit des choses incroyables, hein. Quand vous dites aux gens, moi je crois que Dieu, il a créé le monde, il a créé l'univers, il a tout créé. Ah, les gens, ils rigolent, hein, certains, ils disent, vous croyez vraiment ça? Et vous dites, je crois que Jésus va revenir. Ah, si, les gens rient. C'est incroyable pour les gens. Mais la foi croit ce qui est incroyable, et la foi fait ce qui est impossible. Par la foi, des hommes et des femmes de Dieu ont fait des choses impossibles. Relisez Hébreux 11. Et la marche reprend. Ils marchèrent tous deux ensemble. Puis ça monte en plus, hein, c'est une montagne quand même, hein, donc on s'essouffle. Jésus aussi est monté sur le mont Golgotha. Verset 9, ils arrivent sur le mont Morija, hein, le lieu que Dieu avait dit. Et là, Isaac dépose son paquet de bois. Il était chargé du bois. Remarquez la similitude avec Jésus qui lui était chargé de sa croix. Hein. Isaac avait le bois aussi du sacrifice. D'ailleurs, savez-vous que c'est sur ce mont Morija que sera bâti le temple, hein? Regardez, 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1. Alors, il y a beaucoup de similitudes, hein? Le lieu où Abraham a offert en sacrifice son fils. On sait que Dieu va l'arrêter, mais c'est là où le temple sera rebâti, hein? Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, voilà, qui avait été indiquée à David son père, dans le lieu préparé par David, sur l'aire d'Ornan jébusien, la montagne de Morija, le même lieu. Donc, voilà, c'était une préfiguration. Et donc, si le temple a été construit là, on sait que Jésus sera crucifié pas très loin, hein, sur le mont Golgotha, une colline d'à côté. Voilà, préfiguration. Alors, c'était sûrement très, très dur pour Abraham de bâtir cet autel. Il avait bâti d'autres autels, mais celui-là, les pierres devaient être bien lourdes. Mais peut-être que Isaac l'a aidé. À un moment donné, voilà, il aidait son papa. Et il prenait une pierre. Il dit, papa, celle-là, elle est belle, celle-là, elle est bien. Hein? Oui, mon fils, viens. Allez, oh, il posait cette grosse pierre. Là. Oh. Et puis, il en trouvait une autre. Celle-là est pas mal non plus. Hein? Oui, celle-là aussi, elle est bien, mon fils. Oui, amène-la. Ils ont ajouté pierre sur pierre pour bâtir l'autel. Et on peut supposer qu'il y a des moments où la voix d'Abraham était étranglée, et les larmes étaient aux yeux, dans ses yeux. Et puis le moment est venu de placer le bois. Papa, tu veux que je t'aide? Si tu veux, mon fils. Et ensemble, ils ont pris le bois qui avait été préparé, ils l'ont déposé sur l'autel. Et là, le moment crucial est venu. Abraham, il avait non seulement pris le feu, le bois, un couteau, mais il avait probablement aussi dans un sac une corde. Et là, il a pris les mains de son fils et les a liées. Il a attaché son fils comme une victime. Le texte ne dit pas que Isaac a prononcé quoi que ce soit. Comme Jésus, il s'est laissé faire. Il est dit que Jésus, comme un agneau muet devant celui qui le tond, n'a pas ouvert la bouche. Comme un agneau qui va à la boucherie, il est mis à l'abattoir, c'est ça. Il a attaché son fils, il a allongé sur l'autel, dessus du bois. Jésus, lui, n'était pas attaché avec des cordes, il était attaché avec des clous, mes amis. Ce sont des clous, hein, qui l'ont maintenu sur le bois de la croix. Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, il est dit. Isaac aussi, hein. Obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et puis, Abraham a levé le couteau sur lui. Ce Abraham qui lève le couteau sur lui pour sacrifier son fils, c'est le Père Céleste, hein, c'est le Père Céleste qui lève le couteau du jugement sur Jésus. Dans l'autre main, il tient le feu aussi, le feu de sa colère, hein, parce que tout ce qui va tomber sur Jésus à la croix, il va être frappé par la foudre de Dieu, par le jugement. Et c'est là que, comme dans les suspens, dans les films à suspense, c'est in extremis, vous savez, au dernier moment, Abraham lève le couteau et l'ange intervient, l'ange de l'Éternel. Hein. On relit ce passage et dit, verset 11, il appela des cieux, dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». Quelqu'un a dit, de façon très juste, que c'est la voix de Dieu, c'est l'appel de Dieu qui a arrêté Abraham. Il y a une peinture, je pense que c'est Rembrandt, je ne suis pas sûr si c'est lui ou un autre, mais hein, c'est ça qui, on voit l'ange qui retient la main, d'Abraham. Mais le texte ne dit pas qu'il a pris sa main, il a juste dit « Abraham, Abraham !» Et c'est là que c'est important. Est-ce que nous obéissons quand Dieu nous appelle? C'est comme les enfants, hein. Voilà. Est-ce que les enfants, ils obéissent tout de suite ou pas? Parfois, c'est vital. Hein. C'est la voix de l'ange de l'Éternel. Hein. On est dans le thème des anges toujours, mais ici, on verra que l'ange de l'Éternel, c'est plus qu'un simple ange. Hein. C'est la voix qui a arrêté Abraham, parce qu'il obéit. Abraham, il aurait pu dire, attends, je suis en train de faire quelque chose, là. Il faut que je finisse. On est tous comme ça. Hein. Laisse-moi finir ça d'abord. Quand Dieu parle, il faut obéir tout de suite. Et heureusement qu'il a obéi tout de suite. Parce qu'il a dit, me voici. Toujours disponible, hein, toujours disponible. Et c'est là que l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. On voit que l'ange ici parle comme s'il était Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Un peu plus loin, on le voit aussi au verset 16. Hein. Il dit, je le jure par moi-même. C'est toujours l'ange qui parle au verset 15. Là. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je le jure par moi-même. Donc ici, on a le Seigneur lui-même, probablement Jésus-Christ, hein, qui dans cette théophanie, comme on dit souvent, l'apparition de Dieu sous forme d'un ange, intervient pour arrêter le sacrifice. Alors, à travers ce qui se passe là, nous avons une confirmation que Dieu est contre les sacrifices humains, n'est-ce pas ? Même si là, on n'a pas compris pourquoi il est allé jusque-là, mais voilà, il y avait un but. Hein. C'est quelque chose qui se pratiquait dans, l'Antiquité. Regardez justement ce que Dieu dit dans Michée, chapitre 6, versets 6 à 8. Michée, chapitre 6, versets 6 à 8, où il nous dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Très-Haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux de nom ? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né ? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles ? » C'est ce que faisait certains peuples. Ils sacrifiaient le fils premier-né pour leur péché. On le voit dans la Bible parfois, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Hein. La réponse est non. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Alors ici, c'est un bélier qui va remplacer Isaac. J'aime bien ce petit détail hein, quand il est dit, si on revient à Genèse 22, verset 13, que Abraham a vu un bélier qui était là et il offrit un holocauste à la place de son fils, à la place de son fils. Jésus-Christ, lui, n'est pas remplacé hein, sur la croix. Contrairement à ce que disent les musulmans, ce n'est pas quelqu'un qui a remplacé Jésus. Jésus n'a pas été remplacé. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Il n'y avait pas un bélier ou un agneau pour prendre sa place. Il n'y avait pas un autre homme. Hein. C'est lui l'agneau. Il s'est donné sans retour jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. La Bible nous dit, Romains 8, 32, que Dieu... Romains 8, 32, si Dieu a épargné Isaac, Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré pour nous tous. Voilà. Il n'a pas épargné, il est allé jusque au sacrifice suprême. Jésus, celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu comme un sacrifice et une offrande. Par contre, on peut dire, c'est moi, c'est vous qui aurions dû être sur l'autel, hein, à la place d'Isaac, ou sur la croix, hein, finalement. Mais ça n'aurait pas suffi. Ça n'aurait pas suffi. Parce que c'est Jésus le bélier, c'est Jésus l'agneau, hein, qui a pris votre place, qui a pris ma place. Et donc, Abraham retrouve son fils par une sorte de résurrection, comme on l'a lu tout à l'heure, hein, si on revient à ce texte dans Hébreux 11, et au verset 19, il le retrouva par une sorte de résurrection, effectivement. Hein, c'était in extremis, hein, il était presque sacrifié. Et remarquez que c'est... Là aussi, il y a les trois jours. Hein, ils ont marché trois jours. Ils ont marché trois jours. Et le troisième jour, tout s'est passé là. Hein. Et c'est là qu'il est retrouvé. Il est en quelque sorte ressuscité, entre guillemets. Hein. Ça évoque la glorieuse sortie du tombeau de Jésus. Belle préfiguration que serait cette histoire. Lisons Luc 24, 5 à 8 maintenant. Luc 24, 5 à 8. Nous sommes le matin de Pâques. Alors on peut lire un petit peu avant, on va commencer à lire le verset précédent. On l'a évoqué tout à l'heure dans les lectures, hein, ils arrivent devant le tombeau est vide, la pierre est roulée, elles ne savaient que penser de cela. Voici que deux hommes leur apparurent, habillés de vêtements resplendissants. Ce sont des anges, hein, bien sûr, on est toujours avec des anges. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, voilà, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et c'est un message pour nous aussi. Ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchons pas dans les religions mortes, dans la philosophie, dans les doctrines des hommes, celui qui est vivant. Celui qui est vivant, il est dans la parole de Dieu, il est dans la Bible, il est ressuscité. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et il se souvient des paroles de Jésus. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Il a vaincu la mort, mes amis. Et c'est là notre espérance, c'est là notre message. Je rappelle toujours cette gifle que j'ai reçue un jour dans la rue quand j'évangélisais, c'était encore à Limoges, je prêchais dans la rue sur Jésus-Christ, et à la fin il y avait un jeune musulman qui était en face de moi et qui m'a dit « Mais vous n'avez pas parlé de la résurrection de Jésus, vous n'avez pas dit que Jésus était ressuscité. » C'était comme une gifle pour moi, hein, venant de sa part. Pour lui ça, c'était tout ce qui faisait la différence, parce que Jésus soit mort. Certes, Mahomet est mort aussi, hein. Et tous les grands fondateurs de religion, Bouddha est mort, Confucius est mort, et on pourrait continuer la liste, mais la différence c'est que si Jésus est mort, il est ressuscité, voilà. Et c'est le seul. Hein. Alors proclamons aujourd'hui que Jésus est ressuscité. Amen. Prions, Seigneur, nous te remercions pour cette belle image de Isaac, Seigneur, qui a préfiguré ainsi, qui a annoncé d'avance la mort et la résurrection de Jésus, notre Sauveur. Merci parce que nous n'avons pas, nous, à être sacrifiés, Seigneur, sur un autel ou sur une croix. Tu l'as fait pour nous, Seigneur Jésus. Quelle grâce, quel amour. Même si nous ne comprenons pas encore tout cela, Seigneur, nous l'acceptons et nous disons, me voici, Seigneur, je viens à toi. Faites-le ce matin. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur et votre vie à Jésus, faites-le. Approchez-vous de lui. Dieu vous appelle ce matin. Il vous dit, viens à moi. Crois en moi. Crois au sacrifice de Jésus. Ainsi, vous pouvez répondre, me voici. Je viens. Et vous pouvez dire au Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi. Donnez-lui votre cœur ce matin. C'est le jour de Pâques, quel beau moment, quel beau jour pour se donner à Christ. Je vous invite à faire cette prière dans votre cœur. Et si vous avez besoin de parler avec quelqu'un à la sortie du culte, vous avez Andou qui sera là à la sortie, je serai aussi disponible. Il y aura plein d'autres chrétiens désireux de vous aider à faire ce pas. Amen. Amen. Alors, je vais donner quelques annonces.